Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 13 ans. Je suis en 4e au collège Côte-Lery. Tous les matins, mon réveil sonne à 7h15. Tout d'abord, je prends ma douche. Ensuite, je m'habille, je déjeune. Puis je me brosse les dents. Quand j'ai fini, je prends mon sac et pars prendre mon bus.
Bonjour, moi c'est Théa et comparé à Maxime, mon camarade de classe, je suis prête depuis au moins une heure. Je vais au collège à pied et arrive 5 minutes avant la sonnerie.
Dans la cour, j'ai rejoint mes amis. J'ai cours de maths avec Monsieur Picot. Il faut que je me dépêche, sinon je vais être en retard. Hé hey Luca, t'en penses quoi de Monsieur Picot ?
Bonjour, c'est Luca.
Et Ethan.
On va faire le portrait de notre emblématique professeur de mathématiques, le grand maître. Le plus fort, Monsieur Picot.
Pour commencer, ah oui, le fameux grand maître, ce professeur original et très strict, qui aime le sérieux et le silence.
Même si le silence est interrompu par certaines
chansons qu'il nous chante en plein cours, et même parfois en plein contrôle, et même par des blagues.
Nous allons parler de ses activités en dehors de ses cours de maths.
Par exemple,
il pratique la guitare avec certains élèves du collège. En dehors de ses cours de maths et de son talent
musical,
il participe énormément aux sorties scolaires.
Parlons maintenant de ce qu'il pratique en dehors du collège. On sait qu'il est président du club de
VTT à Mutigny.
Il va souvent à la salle de muscu. On peut le remarquer en voyant son
physique,
surtout ses biceps.
Parlons maintenant de sa vie privée.
Nous savons que professeur de mathématiques a toujours été son métier. Ce n'était pas ce métier qu'il espérait faire. Il voulait devenir médecin ou footballeur. Avant d'intégrer ce collège, il enseignait au collège Montmort-Lucy, 9 ans avant d'intégrer le collège de Côte-Lery.
Il ne voudrait pas être le principal du collège. Monsieur Picot a eu Monsieur Bourg, notre prof principal. On sait qu'il n'était pas très sérieux. Malgré son côté sévère, on sait qu'il n'aime pas mettre de mauvaises notes. Il fait beaucoup de sports en dehors du collège, comme la natation, la musculation, la course à pied et le vélo, qui est son sport préféré. On sait aussi qu'il tient un club de VTT. Ce prof s'entend très bien avec ses collègues. Il trouve aussi qu'il y a une très bonne ambiance dans ce collège, mais pas assez de discipline.
Pour finir, il a fait de la lutte de 40 à 45 ans. Il a décidé d'arrêter car il se faisait plaquer à tous les combats.
Après être sorti du cours de maths, je me dirige dans la cour de récréation pour rejoindre mes amis. Mais là, je vois une fille en train de se faire harceler par un groupe de troisième.
Aïe, arrête de me pousser.
Pourquoi je ferais ça?
Parce que t'es trop chiant, j'en ai vraiment marre, il faut que ça cesse.
Eh non, mais tu rêves là.
Si ça continue, je vais voir mon professeur principal et la principale adjointe.
Bla 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 bla.
Harceler un camarade peut avoir des conséquences très graves qui peuvent aller jusqu'au suicide. S'il vous plaît, soyez respectueux les uns envers les autres. Venez en aide aux personnes qui se font harceler, prévenez un adulte ou appelez le 3018. Arrêtez d'harceler les autres.
Je vais prévenir Madame Villain de ce qui vient de se passer. Mais à ce moment-là, je vois Tom et Joris poser des questions à notre principal.
Aujourd'hui, nous allons interviewer Madame Villain, principale du collège Côte-Lery. Bonjour Madame Villain.
Bonjour Tom.
Comment gérez-vous le harcèlement ?
Alors, dans l'établissement, depuis quelques années déjà, est mis en place le protocole phare, qui est d'ailleurs un protocole national qui est en vigueur depuis à peu près 5 ans dans l'ensemble du territoire français, et qui permet justement non pas seulement de répondre aux situations de harcèlement quand elles ont eu lieu et quand elles nécessitent donc une sanction, mais quand justement nous plaçons dans une situation de prévention. Donc les cas les plus habituels sont des suspicions en fait de harcèlement qui permettent en fait d'identifier de potentiels intimidateurs, lesquels sont pris en charge par une équipe identifiée d'établissement en fait de différents personnels, souvent des professeurs mais pas seulement, des CPE, des personnes de l'équipe médico-sociale, infirmières, assistantes sociales. Mais cela peut être aussi des personnels administratifs ou des personnels de direction, évidemment, ou pourquoi pas des agents. Donc ces personnels, en fait, interviennent auprès d'abord de l'élève, effectivement, qui se sent harcelé, qui se sent intimidé, recueillent sa parole. Et ensuite, dans le cadre de cet échange, il y a identification des potentiels intimidateurs, lesquels sont non pas interrogés pour savoir si effectivement voilà, les faits se sont passés, mais plutôt on les invite à se mettre en fait à la place de celui qui pourrait subir donc une situation de harcèlement. On est dans ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée. L'objectif étant de créer en fait une empathie, l'empathie en fait de celui qui serait donc le harceleur vis-à-vis de sa victime, et de lui expliquer que alors ce qu'il fait effectivement n'est pas bien, n'est pas bon, mais de l'aider aussi à prendre conscience des conséquences dramatiques, plus ou moins dramatiques, hein, certaines ne le sont pas du tout, et fort heureusement. Donc conséquences qu'il peut faire subir à cette victime. Voilà comment en fait le protocole phare intervient. Lorsque la victime évidemment est sortie d'affaire, ben, il n'y a plus besoin de sanctionner les auteurs.
Quelles sont les sanctions que vous donnez le plus ?
Alors dans ce cadre-là, l'objectif est d'éviter les sanctions parce qu'on a réussi donc à mettre en œuvre le protocole phare de façon opératoire. Mais au quotidien, malheureusement, il y a des sanctions hein, qui sont prononcées. Donc le plus souvent, nous sommes sur les exclusions-inclusions en ce moment, un peu plus souvent que les années passées. L'idée étant de maintenir l'élève dans la scolarité, dans le collège, lui permettre de rattraper ses cours, évidemment, de ne pas le laisser à la maison en exclusion d'établissement, et puis de travailler avec lui sur la réparation de la faute qu'il a commise, pour que bah, il ne la commette plus, évidemment.
En quoi consiste votre métier ?
Il est difficile de répondre à cette question en peu de temps. Mon métier d'abord avec mon collègue, mes collègues proches, hein, adjoints et équipe de direction, consiste à mettre en œuvre en fait les directives nationales sur l'éducation nationale, de l'éducation nationale, et de prendre en compte aussi celles qui nous sont données par le recteur de l'académie, de la direction académique également. Et donc au quotidien, on met en œuvre toute cette politique éducative, mais j'allais dire pas seulement, puisqu'il faut, et fort heureusement, travailler avec les projets que les professeurs et que les équipes en fait nous proposent, toujours évidemment dans le respect des prescriptions ministérielles, académiques et départementales. Mais tout ça en fait ça crée une synergie et nous sommes les chefs d'orchestre en fait pour mettre en œuvre tout ce qui peut permettre aux élèves d'être éduqués parce que c'est l'éducation nationale, mais d'être instruits bien sûr en premier lieu.
Quels sont les avantages et inconvénients à votre métier ?
Les avantages, c'est que c'est jamais identique. Il y a une diversité importante des tâches. On ne fait jamais la même chose d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on n'est pas dans la routine. Cette diversité, elle amène énormément, évidemment, de tâches à accomplir. Mais bon, voilà, il faut qu'on, bien sûr, s'organiser. Et puis là, les inconvénients, vous m'avez demandé. Les inconvénients, c'est cette multiplicité. Hein, c'est d'être toujours quand même en phase avec ce qu'il y a à faire, ce qu'on nous demande, et évidemment conserver à l'esprit qu'il y a des délais pour le faire. Et les autres inconvénients, c'est effectivement quand il y a notamment des sanctions à remettre, ce n'est pas plaisant. En même temps, ce qui est intéressant, c'est le sens que les élèves et les familles donnent à ces sanctions. Et donc c'est ça, c'est notre travail, c'est de toujours lier l'utile au sens des choses, voilà, ou à la valeur éducative.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Quoi ? C'est déjà fini ?
On va en quoi ?
Je crois qu'on va au CDI pour la radio primitive.
En fait, Maxime, tu veux faire quoi comme métier ?
Moi, je veux devenir prof de français. Monsieur Varneau est un modèle. Mais qui sont ces femmes qui nous accompagnent dans leur projet radio ? Je pense que Thiago et Elliot peuvent nous éclairer sur ce sujet.
Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Anne-Marchal Zener et je suis bibliothécaire jeunesse au sein des médiathèques d'Épernay.
Pouvez-vous nous présenter le rôle de la médiathèque dans le projet ?
Oui, eh bien, face au flux d'informations et à la désinformation, l'éducation aux médias et à l'information est devenue un enjeu crucial. Et à ce titre, les médiathèques ont un rôle essentiel à jouer pour développer des compétences critiques, se positionner en tant que ressource et accompagner les publics vers une meilleure compréhension du monde. Pour toutes ces raisons, les médiathèques ont à cœur de développer des partenariats comme celui qui a donné lieu à ce projet.
Merci.
Merci.
Comment va se passer la restitution du projet ?
La restitution aura lieu à la médiathèque Simone Veil le 26 mai à 10h30 et nous écouterons à cette occasion le journal radiophonique réalisé par vous-même.
Merci.
Je m'appelle Yann Verneau, je suis professeur de français, lettres modernes on dit aussi, au collège Côte-le-Gris.
Pouvez-vous présenter votre rôle dans le projet ?
Ben, c'est un rôle d'accompagnement, hein. J'accompagne la classe de 4e 4 pour les aider à élaborer leurs textes et puis les suivre dans le temps. Voilà.
Merci, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Madame Labille Eladik, je suis professeure documentaliste au collège Côte-le-Gris.
Pouvez-vous présenter votre rôle dans le projet Radio Primitive ?
J'ai un rôle de coordination, parce que je fais le lien entre la médiathèque, Radio Primitive et le collège. Et ensuite, on a un rôle de suivi et d'encadrement des élèves.
Moi, je m'appelle Gustine et je travaille pour Radio Primitive, une radio associative à Reims.
Pouvez-vous présenter le projet ?
Alors, aujourd'hui et depuis quelques semaines maintenant, on est au collège Côte-le-Gris pour faire un atelier radio, donc d'éducation aux médias et à l'information. Avec les 4e 4 du collège Côte-le-Gris, nous avons décidé de créer une émission dans laquelle on pourra intégrer des reportages, des interviews pour pouvoir raconter un peu le quotidien d'une collégienne et d'un collégien au sein du collège Côte-le-Gris.
D'accord. Maintenant, pouvez-vous présenter votre rôle dans le projet ?
Eh bien, mon rôle, c'est d'encadrer tout simplement cet atelier, donc d'essayer de donner les clés, les outils aux 4e 4 pour leur expliquer comment fonctionne la radio, comment fonctionnent les médias, comment on travaille une interview, comment on travaille un reportage, pour leur faire découvrir aussi l'art du montage, et puis mettre un petit peu la pression pour essayer de respecter les deadlines, pour avoir le rendu qu'ils souhaitent avoir à la fin, et découvrir ça à l'occasion de la restitution. Qui se tiendra à la médiathèque d'Épernay.
Bon, Maxime, t'exagères, là. Le délégué de classe, s'il vous plaît.
Oui.
Tu l'amènes à la vie scolaire, s'il te plaît.
D'accord. T'es vraiment doué pour te faire virer.
Je n'ai pas fait exprès.
Je vous emmène Maxime, qui s'est fait virer du cours de Monsieur Verneau. Quand je retourne en classe, je croise Jenna et Camille dans le couloir. Coucou les filles ! Alors, votre interview s'est bien passée ?
Oui, très bien.
Vous voulez bien nous faire écouter
Oui, ça tombe bien, en plus on vient de finir le montage.
Bonjour, je m'appelle Tatiana. Je suis une des surveillantes de ce collège.
Bonjour, je suis Angélique et c'est la 7e année que je suis surveillante au collège Côte-le-Gris.
Bonjour, je m'appelle Bar Songun, j'ai 24 ans.
Bonjour, je me présente, alors c'est Monsieur Tournoi Maxime, en tant que AED au collège Côte-le-Gris et aussi TIS, référent informatique.
Pourquoi ce collège ? Parce que il se situe à Épernay et j'aime énormément Épernay, étant donné que j'ai fait mes années lycée ici.
Oh, parce que j'ai postulé dans plusieurs collèges et que c'est le premier qui m'a répondu à l'époque par la positive, donc c'est là que j'ai atterri.
Parce que j'ai entendu du bien et il avait une très bonne réputation.
Alors, à la base, j'avais postulé à plusieurs endroits, donc Côtieux-Gris, mais aussi à Dormans. Et Côtieux-Gris a répondu plus rapidement que Dormans, donc je suis venu ici.
Quelle formation avez-vous réalisée pour être surveillant ?
Il faut uniquement le bac, donc c'est très bien parce que c'est accessible à beaucoup de personnes.
Pour être surveillant, il faut juste un bac. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait une licence en psychologie et un master en encadrement éducatif parce que je voulais être CPE à la base. Et comme je n'ai pas eu le concours qui va avec, j'ai atterri en étant surveillante parce que je reste quand même dans le milieu scolaire. Donc, c'était pour m'aider à passer mon concours.
Aucune.
J'ai pas fait en priorité de formation pour être surveillant, mais ma formation de base, c'est au niveau de l'informatique. Lorsque j'ai travaillé dans un autre collège avant Côtieux-Gris, j'étais plus TIS, mais je m'occupais un peu des élèves. Et par la suite, quand j'ai postulé à Côtieux-Gris, je me suis mis en tant que surveillant parce que c'était le poste de base, mais je faisais toujours un peu d'informatique. Mais j'ai pas vraiment de formation particulière.
Avez-vous des études à côté de votre profession ?
Non, c'est uniquement ma seule profession et puis les études, ce ne sera pas pour tout de suite.
Du coup, non, j'ai fini toutes mes études, mais j'aimerais bien passer à un autre concours que celui de CPE maintenant. Donc je travaille un petit peu à côté, mais pas d'études concrètes.
Pour l'instant, non, mais j'envisage de faire des études.
Un autre travail, oui, des études, non. Je suis trop âgé maintenant pour les études. Non, sinon, oui, j'ai une entreprise, je suis auto-entrepreneur dans tout ce qui est réparation de produits électroniques.
Est-ce facile d'être surveillant au collège ?
Ça dépend des jours, des périodes, mais je pense que c'est pas le métier le plus difficile.
Alors, je dirais pas que c'est facile, mais moi, j'ai l'habitude maintenant. Comme c'est ma 7e année, ça devient plus facile avec le temps. Mais après, effectivement, ça dépend des journées. Il y a des journées plus simples que d'autres. Moi, je trouve que c'est facile à mon niveau, à mon point de vue, parce que je suis à l'aise dans ce que je fais.
Non, il y a des jours où ça va être simple, il y a des jours où ça va être assez compliqué. Il faut juste avoir le mental.
Facile, des fois, ça bouge bien, surtout quand on est en sous-effectif. Sinon, les postes sont pas difficiles. Moi, je suis souvent avec les élèves pour les aider en salle informatique. Ou sinon, j'ai d'autres tâches comme le CNED pour l'espagnol et le passage de certaines épreuves.
Auriez-vous préféré être surveillant au lycée ?
Non, pas vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus simple d'être surveillant dans un collège, sachant qu'on a plus d'écart d'âge avec les élèves, donc c'est plus simple.
Pas du tout. C'est pas du tout un âge qui me correspond. Ça me donne pas du tout envie. Je trouve que les élèves de lycée sont plus grands, plus matures, et donc ils ont moins besoin de nous. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'être présente auprès des élèves. Donc je me sentirais un peu inutile, je crois, au lycée.
Pas du tout. Je préfère les collégiens.
Au lycée, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que la mentalité des élèves, bien sûr, est différente parce qu'ils sont plus grands. Après, il y a bien plus de monde aussi. Ça m'aurait pas dérangé, mais j'ai jamais vu comment ça a été structuré comparé à un collège.
Comptez-vous évoluer ou rester surveillant ou même changer de radicalement ?
Alors ça dépend du futur, on va dire. Pour l'instant, je me plais très bien ici, donc ça va rester là pour un petit bout de temps.
Du coup, comme j'ai commencé à le dire, j'aimerais bien passer un autre concours, celui pour faire professeur de français, donc le CAPES de lettres modernes. Donc voilà, mais c'est pas prévu pour l'année prochaine encore, donc j'ai encore quelques années devant moi de surveillante, je pense.
Je compte évoluer, je pense faire encore 3 ans dans la surveillance pour ensuite me retourner dans l'éducation éducatrice spécialisée au foyer.
Alors je me suis jamais vraiment posé cette question-là parce que pour le moment je me sens très bien dans le rôle que j'ai, dans le poste qu'on m'a attribué. Changer de travail, non. Après évoluer peut-être un jour, peut-être faire un diplôme en mathématiques. J'y avais pensé l'année dernière. Je verrai bien dans les années qui viennent.
Quels sont vos devoirs ? D'assurer la protection des élèves, de les surveiller, d'être là pour eux.
Veiller sur les élèves, sur leur sécurité, sur le respect des règles aussi, du règlement intérieur. Après, moi je trouve qu'il y a encore plus de choses en fait qui englobent nos missions. Moi j'aime être là pour les élèves aussi, pour tous les autres pans de leur vie finalement, même leur côté personnel. On est un peu infirmière parfois, un peu psychologue, un peu gendarme, un peu tout finalement.
Surveiller et maintenir l'ordre dans l'établissement.
Devoir. Donc, comme j'ai pu signaler dans une question d'avant, mes devoirs, c'est déjà surveiller les élèves, que ce soit à la cantine ou dans la cour. Être présent pour eux quand ça va pas, ou être présent aussi pour eux pour les aider dans tout ce qui est devoirs, leçons. Des passages comme le CNED, la SSR, certains diplômes comme PIX aussi. Donc j'essaie d'être très polyvalent.
Qu'est-ce qui vous énerve le plus au sein du collège ?
L'attitude de certains élèves qui peuvent avoir, parfois, ça peut être leur manque de respect, leur insolence.
Le manque de respect, évidemment, et le manque de tolérance aussi, je pense.
Me répéter.
Peut-être des fois un peu un manque de communication, entre, que ce soit entre nous dans l'équipe ou même peut-être avec peut-être des professeurs ou l'administration, qui fait qu'on a des bugs sur mon bureau numérique, des cours qui n'apparaissent pas. Et moi, arrivé à la grille, bah, ça me pose des soucis.
Mettez-vous souvent des punitions comme les heures de colle ou autres ?
Moi, personnellement, j'évite, mais parfois, on ne peut pas faire autrement pour se faire entendre.
Pas souvent. Alors surtout que cette année, je suis à mi-temps, donc j'en mets encore moins que d'habitude. Mais j'en mets parce que je pense que c'est obligatoire pour poser un cadre. À un moment donné, quand il y a des mauvaises actions, il y a forcément des conséquences. Après, j'essaye d'être juste. Je préviens toujours avant de donner la punition. Si l'élève continue son mauvais comportement, alors la punition est actée.
Très rarement, c'est quand on me pousse vraiment, vraiment à bout.
Assistez-vous au conseil de discipline ?
Alors moi, personnellement, non, pas encore. On me l'a déjà proposé, mais je n'ai pas pu y assister.
Non, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant.
Non, mais j'aimerais bien y participer.
Conseil de discipline, non.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Le contact avec les élèves, pouvoir les voir évoluer et être là pour eux.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Le rapport avec les élèves. Moi, c'est vraiment ça qui me tient, c'est le rapport que je peux avoir avec eux, les échanges. Et tant qu'à faire, je préfère les bons échanges, quand on peut discuter, rigoler. C'est ce que je préfère plutôt que de punir.
C'est le fait d'être toujours en contact, avoir des discussions, être entouré de personnes. Je préfère avoir des contacts humains que d'être devant un ordinateur ou devant des papiers. Et du coup, c'est ça que j'aime beaucoup.
Alors, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est être auprès des élèves, quand ça va, quand ça va pas, pouvoir les voir grandir, leur montrer aussi, leur apprendre et leur montrer certaines qualités. Par exemple, il y a des élèves qui sont timides en arrivant en 6e et qui évoluent tout au long de l'année et qui sont bien moins timides en 3e, au fur et à mesure de différentes conversations ou de leur évolution propre. Et c'est ça qui fait que j'aime bien mon métier, être présent auprès des élèves.
Jusqu'à quel niveau pouvez-vous être proche des élèves ?
Pas trop non plus. Il faut qu'on garde une certaine distance pour qu'ils se rendent compte qu'on reste les adultes et pas des amis.
Bah pas trop. C'est sûr qu'il faut garder quand même un statut professionnel. Mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus proche des élèves que les enseignants parce que... On est avec vous du matin au soir, avec vous aux toilettes, avec vous à la cantine. On est avec vous partout finalement. Et en fait, 10 heures par jour, on est avec vous. Donc forcément, on est plus proche de vous et c'est normal et c'est tant mieux. Parce que je pense qu'on peut aussi se permettre du coup de partager des choses un peu plus personnelles et d'être en première ligne justement pour voir certaines problématiques que certains élèves n'oseraient pas... aborder avec l'infirmière ou les enseignants. Donc c'est là que je trouve que c'est important d'être proche des élèves aussi pour pouvoir les aider au mieux finalement.
Ah, y a quand même une distance à respecter. On peut rigoler avec eux, on peut discuter, mais sans plus.
Alors quand c'est un problème trop compliqué, j'en réfère à l'administration ou à l'infirmière ou au CPE. Après, quand c'est un problème qui peut être réglé, je règle soit avec l'élève, soit avec l'appui de quelqu'un de la vie scolaire, dans le but que le problème ne continue pas et que l'élève se sente bien au sein de l'établissement.
Est-ce compliqué de gérer tout le matériel informatique ?
C'est compliqué dans le sens où il y a des j'ai pas assez d'ordinateurs pour tout changer. Sinon, à côté de ça, la salle informatique est toujours bien rangée. Les autres salles ont jamais de soucis parce que j'y passe régulièrement pour mettre à jour les ordinateurs quand j'ai du temps libre. Sinon, oui, la seule chose, c'est si j'avais plus d'ordinateurs, je pourrais mettre tout à niveau correctement.
Est-ce qu'il y a souvent des problèmes informatiques au sein du collège ?
Des problèmes, après, il y a des petits problèmes, des gros problèmes, non. Certaines fois, il y a le serveur qui plante, mais un redémarrage suffit à corriger le problème. Sinon, non, s'il y a vraiment un gros, gros problème, j'appelle le rectorat, mais ça arrive très, très rarement et de moins en moins.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Ben de rien. Enfin, l'heure de manger. Bon, je vais retrouver mes amis à la cantine.
La cantine est un lieu sacré quand nos ventres gargouillent.
Au menu, nous avons plusieurs entrées, plusieurs desserts qui régalent au quotidien nos papilles.
Il y a deux plats au choix pour le plat principal.
Ils proposent des plats végétariens au moins une fois par semaine.
Il y a des plats spéciaux pour Noël, Halloween et la Saint-Valentin.
Ils décorent la cantine pour cette occasion, pour ne pas simplement régaler nos ventres, mais aussi nos yeux.
Pour la boisson, il n'y a que de l'eau.
On peut nous resservir combien de fois notre ventre le désire.
Pour le gaspillage, nous avons un mini frigo. Si l'on est rassasié, on y met la nourriture pas commencée.
Chaque année, il y a un concours d'organiser pour le gaspillage.
Si une classe gaspille le moins, elle gagne le droit de choisir le plat que notre ventre aimerait déguster.
L'année dernière, nous avons gagné le concours.
Notre plat a été en entrée,
de la charcuterie,
en dessert,
des glaces,
en plat principal,
des kebabs,
en boisson.
C'était du coca et de l'ice tea.
Quand notre estomac est rempli à ras-bord, on débarrasse notre plateau et trie nos déchets.
On sort de la cantine avec le ventre plein.
Bah, je m'appelle Boulogne-Pierre, je suis chef de cuisine au collège Côte-le-Gris. Ça fait 10 ans là maintenant.
Quel est le menu du jour ?
Alors, aujourd'hui, on a des îles flottantes en dessert. On va commencer par le dessert, c'est le meilleur. Après, on a du haricot vert avec steak haché. Et on a une salade de céréales au thon.
D'accord. À quelle heure vous levez-vous ?
5h15.
Moi, je vais aller manger avec Aglaé et Seta avant d'aller à la chorale.
Merci, répétition toute la journée à terre rouge. Donc, on se revoit à 8h ici. Comme ça, je vous redistribuerai les dernières partitions. On vérifiera que tout le monde a bien ses partitions. Les oublie pas, s'il vous plaît. Oui, sauf vous. Et on part en bus à Terre Rouge. On reviendra avant 4h30, bien sûr.
Oh, la salle de musique est vraiment très spéciale.
Oui, j'aime bien sa forme de demi-cercle, les instruments bien rangés et les affiches des spectacles et des années précédentes.
Le piano au centre donne un charme à cette salle.
Cher pays de mon enfance, laisse de ton insouciance ton cœur.
Ok, on essaie de mettre les deux en place.
Mais comment choisissez-vous les musiques ?
On se réunit les quatre professeurs d'éducation musicale et en fait, en général, on a déjà un thème à l'esprit. Et ensuite, on essaie de choisir des chansons en fonction du thème. La plupart du temps, on choisit quand même en fonction de nos affinités avec les musiques. Parfois, c'est aussi des chansons qu'on a déjà faites.
Et quels sont les thèmes de cette année ?
Donc, cette année, on était parti sur le thème des standards. Donc, un standard, c'est une chanson qui perdure dans le temps, qu'on réentend, souvent qui est reprise dans différents styles. Donc on était parti sur les standards et pour organiser le spectacle, on les a classés selon des saisons. Donc on a un peu un double thème cette année. Les élèves volontaires des chorales des différents établissements que j'ai cités précédemment, qui participent au spectacle. Donc les élèves s'inscrivent en début d'année, participent à la chorale des différents établissements. Donc en général, on a, disons, entre 150 et 200 élèves choristes, avec plusieurs répétitions dans l'année où on rassemble tous les élèves et on commence déjà à travailler tous ensemble afin de travailler aussi sur l'équilibre des différentes voix. Donc moi, j'y participe en tant qu'enseignante depuis que je suis arrivée à Côte-le-Gris il y a 3 ans. J'y ai déjà participé en tant que musicienne lorsque j'étais étudiante. Et en fait, j'ai participé au tout premier spectacle, dans les premières années où l'oreille en fait a été créée, lorsque j'étais élève au collège Côte-le-Gris. Donc là, c'était en 91, peut-être, mon premier spectacle.
Qui organise le spectacle ?
Donc en premier lieu, ce sont les 4 professeurs d'éducation musicale des collèges d'Épernay et du lycée Stéphane Hessel, ainsi que du collège d'Aï. Mais c'est aussi grâce à l'association de l'Oreille en Fête. Donc tous les ans, on a donc des cotisants qui sont en partie les familles des collèges qui cotisent à l'Oreille en Fête, et c'est grâce à ces adhésions que l'Oreille en Fête peut vivre. Donc c'est une association qui va donc embaucher le sonorisateur, par exemple, qui va gérer les sons au niveau du spectacle, ou la personne qui s'occupe des lumières, ou encore la réservation de la salle du Palais des Fêtes est payante. Donc il faut régler tout ça, et c'est grâce à l'association de l'Oreille en Fête que l'on peut organiser le spectacle tel qu'il est organisé actuellement. Et donc comme c'est une association, il y a des réunions avec un bureau, un président, un trésorier, donc on doit faire un budget prévisionnel tous les ans et s'assurer que l'on peut bien financer les spectacles.
Pour monter sur le while, c'est pas comme la phrase d'avant. Encore une fois, 1, 2, 3, 4 et you.
Je crois qu'on peut gagner des points en s'inscrivant.
Ah bon ?
Je vais demander à Mélodie.
J'ai choisi de m'inscrire parce que j'aime chanter. Donc c'était un peu évident pour moi de choisir de m'inscrire à la chorale. Et ça va me permettre de faire de nouvelles expériences, de découvrir plein de choses. Voilà.
Est-ce que tu gagnes aussi des points ?
Oui, on a une note sur 20. Donc ça va permettre de faire gagner des points dans la moyenne pour la remonter. Donc c'est une bonne note à chaque trimestre.
Moi, je vais aller rejoindre Théodore pour aller à l'UNSS. On va faire du ping-pong. Et en plus, c'est la journée du sport. Théodore, tu peux m'expliquer ce que c'est ?
Bonjour, c'est Théodore. Et moi, je vais vous parler de l'UNSS, qui propose de nombreuses activités pour la modique somme de 18 euros à l'année. Le lundi, handball. Le mardi, volleyball. Le mercredi, escalade et futsal. Le jeudi, renfo. Et le vendredi, badminton, prépa cross et tennis de table. Il y a beaucoup de compétitions dans presque tous les sports proposés. Il y a même des championnats prof-élèves pour le badminton et le tennis de table avec une coupe. Nous avons une excellente UNSS. Ainsi, l'année dernière, l'escalade est allée jusqu'au championnat de France et cette année jusqu'au championnat académique qui se sont déroulés le mercredi 8 avril. Nous y avons fini deuxième et non premier, ce qui n'a malheureusement pas permis à l'équipe de se qualifier au championnat de France. Les élèves de prépa cross sont également excellents. L'année dernière, ils sont allés jusqu'au championnat académique. Bravo! Notre association sportive propose également de nombreuses activités extrascolaires, comme des places pour aller voir le stade de Reims à 1 euro, ou des places gratuites pour des matchs de basket. L'année dernière, l'AS a même organisé un concours appelé Super Talent au Collège Côte-le-Gris. Il s'agissait d'un concours nous permettant de montrer nos talents, qu'ils soient sportifs ou artistiques. Merci beaucoup, c'était Théodore. Au revoir!
Après la chorale, je vais dans la cour. À ce moment-là, je croise Luana et Sané. Salut Luana, salut Sané. J'ai pas trop compris ce qu'a dit la documentaliste sur le CDI. Vous pouvez m'éclairer ?
Bonjour,
c'est Sané
et Luana. Aujourd'hui, on va vous parler du CDI.
Pour commencer, qu'est-ce que c'est le CDI ?
Le CDI est un centre de documentation et d'information. On peut trouver des livres pour lire et se renseigner. Il y a aussi des ordinateurs pour travailler, puis des jeux pour se divertir. Mais qui s'occupe du CDI ?
C'est la documentaliste Madame Labie qui s'en occupe. Elle se débrouille très bien. Qu'est-ce qui se passe au CDI ?
Dans le CDI, il y a souvent des expositions sur des sujets variés. De grands posters sont accrochés pour nous montrer les sujets mis en valeur.
Chaque année, le défi lecture est mis en place. Il consiste à lire des livres sélectionnés pour ensuite répondre à des questionnaires qui nous rapporteront des points. Les élèves ayant répondu au plus de questionnaires seront qualifiés pour participer à la finale.
Mais on allait oublier, Madame Labie fait aussi des cours de MI au 6e. Il y a tellement de choses à dire qu'on en oublie. C'est quoi ton truc préféré à toi au CDI ?
Moi, j'adore les mangas. Si je devais vous en conseiller un, ce serait Orange. Il y a plein de types de mangas, comme de la romance et de l'aventure. Encore une fois, les types de livres sont très variés.
Pour résumer, le CDI est un lieu rempli d'informations où on peut trouver de tout.
C'est un lieu chaleureux et convivial que la plupart aiment.
Maintenant, vous savez tout sur le CDI.
À bientôt!
En cours au CDI.
Lucas, pour toi, c'est quoi le respect ?
Le respect, c'est reconnaître et apprécier les autres, leurs sentiments, leurs opinions et leurs actions, et agir envers eux de manière polie et attentionnée. En effet, sans respect, la vie en société et particulièrement au collège ne serait pas possible. J'ai été éduqué dans le respect des autres par mes parents comme par toute ma famille. Au quotidien, pour moi, le respect, c'est la gentillesse. On ne s'insulte pas, on ne se tape pas. Je suis assez respectueux avec tout le monde. Je trouve ça normal et je n'ai jamais vécu cela comme une contrainte. Je suis également très respectueux pour la planète. Je fais le tri sélectif. Je ne mets aucun déchet par terre et je les ramasse quand je les vois.
Je croise Alouina et Adrien. Salut Alouina, salut Adrien.
Salut Théa.
Vous ne deviez pas interroger un agent d'entretien ?
Ah si.
J'en ai croisé un là-bas.
Merci pour l'info, on va aller voir.
C'est Adrien et Alouina.
Au collège Côte-le-Gris, aujourd'hui nous sommes avec Jordi Poulet.
Bonjour à tous.
À quel âge avez-vous commencé votre travail ?
Alors, j'ai commencé mon travail à l'âge de 21 ans.
Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
Alors, je dirais plutôt pour le bricolage et la diversité. Les journées ne sont pas toutes les mêmes.
Depuis quand travaillez-vous ici ?
Alors, je suis sur ma 5e année scolaire.
Avant de devenir à Côte-le-Gris, que faisiez-vous ?
Alors, j'étais serveur dans un restaurant à Strasbourg.
Qu'avez-vous dû nettoyer de plus sale ?
Je dirais le plus sale, c'est la cour. Il y a énormément de papier, il y a énormément de saleté dans la cour. Donc oui, c'est bien l'endroit du collège qui est le plus sale.
Pourquoi dit-on que les élèves sont sales ?
Alors les élèves sont sales parce que du coup, quand je revenais avant à la même question, il y a énormément de papier dans la cour, donc les élèves, on a mis en place des poubelles dans la cour. Les élèves mettent quand même leur papier tout de même dans la cour et pas dans les poubelles. Donc c'est nous qui passons derrière. Donc on nettoie tout ce qui est papier, tout ce qui est saleté dans la cour, donc voilà.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans vos métiers ?
Alors, personnellement, je pense que c'est les espaces verts. Donc l'entretien des espaces verts, donc c'est la tonte, le taillage, le nettoyage. Pour moi, c'est ce qui est le plus dur dans ce métier. C'est très physique.
Combien gagnez-vous par mois sans indiscrétion ?
Alors, question salaire, c'est un barème géré par le département. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de... Enfin, j'ai pas envie de le dire. Mais voilà, il faut savoir que c'est un barème qui est géré par le département, donc on est payé en fonction.
Que faites-vous des objets perdus ?
Alors, les objets perdus qu'on retrouve, c'est généralement les de nos surveillants à la Visco. Ils sont stockés pendant pas mal d'années dans un local qu'on a spécialement pour ça. Et les élèves qui veulent récupérer, ben, ils peuvent récupérer comme ils veulent.
Maxime, on va t'emmener avec nous dans une séance typique de section foot. On est mardi à 15h35 et Alexis arrive au collège. Une fois que l'appel est terminé, des minibus nous emmènent jusqu'au stade Paul Chandon. Une fois arrivé au stade, on se dirige vers les vestiaires et on se change. À 16h, notre coach Alexis siffle pour annoncer le début de l'entraînement. Alexis, c'est notre coach et nous allons lui poser quelques questions pour en savoir plus sur la section.
Depuis quand existe la section foot ?
Elle existe depuis 2002.
Est-ce que tu entraînes d'autres groupes en dehors de la section ?
Oui, au foot, j'entraîne aussi des enfants. Cette année, des U12 au Racing Club d'Épernay et un groupe de seniors à l'USA Visgrove.
D'après toi, à quoi sert la section foot ?
La section foot, elle sert surtout à progresser individuellement avec deux séances en plus. Donc il y a un gros travail individuel, technique et aussi au niveau de la prise d'information, des observations et tout ce qui est tactique, technique et physique.
Comment se déroule un entraînement ?
Entraînement, alors ça commence toujours par un échauffement, petit échauffement d'une douzaine de minutes. Ensuite, il y a des jeux de conservation et de transition. Quelquefois du travail devant le but quand on est dehors. Et souvent, on finit par des petits jeux de 20 à 30 minutes.
C'est la fin de l'entraînement. Alexis fait un bilan, puis on retourne dans les vestiaires après une heure et demie de séance sur le terrain synthétique. Quand la météo n'est pas favorable, on peut aussi s'entraîner au gymnase du collège en futsal. Les groupes d'entraînement sont divisés en deux groupes, 6e, 5e le lundi et le vendredi avec Antoine, et les 4e, 3e le mardi et le jeudi avec Alexis. Une fois l'entraînement terminé, nos parents viennent nous chercher à l'endroit où s'est déroulée la séance.
Enfin la fin de la journée.
Moi je repars en bus. Puis je vais manger mon goûter.
Moi, je repars à pied en écoutant la tribu de Dana de Manu. Cette fiction a été réalisée par
Pelle,
Seta,
Agley,
Luana,
Kané,
Amelia,
Eleanor,
Camille,
Jenna,
Maïlis,
Marie,
Luan,
Margot,
Elliot,
Joris,
Théodore,
Lucas,
Tom,
Thiago,
Aloena,
Adrien,
Ethan,
Luca,
Margot.
C'était les 4e 4 du collège Côte-le-Gris.
De la tribu de Dana, je suis devenu roi.